Bonjour à tous. Bienvenue à la réunion at large de renforcement des capacités 2016 sur le sujet de la transition IANA et de ce que cela veut dire pour l'at large. Nous sommes le 6 avril 2016, il est 13h UTC. J'aimerais rappeler à tous les participants qui téléphonent et qui sont sur ADICO d'éteindre leur micro et lorsqu'ils prendront la parole, de donner leur nom pour la transcription ainsi que pour que les interprètes puissent les identifier dans les différents canaux de langue. Nous avons l'anglais, le français et l'espagnol. Merci à tous d'être avec nous. Je vais maintenant passer la parole à Tijani Benjema pour faire la présentation de ce webinaire de renforcement des capacités. Tijani, micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire de 2016. Nous allons aujourd'hui parler de ce que signifie la transition IANA pour at large et pour l'ICANN en général. Et nous avons donc deux intervenants qui sont excellents et qui vont nous parler de ce sujet. Nous avons donc Alan Greenberg qui est président de l'at large, Olivier Crépin-Leblon qui est président de RADO. Donc, un d'entre eux est membre de la transition, du CCWG qui s'est occupé de la transition, et l'autre fait partie du CWG qui s'est occupé de la responsabilité. Et Olivier a également beaucoup participé aux activités du CWG. Je ne vais pas vous en dire davantage, je vais passer la parole à Alan Greenberg et à Olivier Crépin-Leblon, qui vont donc commencer la présentation. Mais avant, j'aimerais quand même demander au personnel de se débarrasser de la diapositive. Nouvelle intervenante au micro. Oui, bien sûr. Donc, pour ce qui est de la présentation, il y aura une partie questions-réponses. Si vous avez des questions, nous vous encourageons à les taper et donc elles obtiendront une réponse par la suite. Nous avons également un questionnaire à la fin, donc soyez prêts à répondre aux questions qui vous seront posées à la fin. Et enfin, il y a une partie sur l'expérience de l'utilisateur. Vous aurez donc besoin de quelques minutes pour donner votre feedback. Donc, nous allons maintenant passer aux diapositives de la présentation. Tijani au micro. Merci, Yessine. Je vais maintenant passer la parole à Alan. Alan Greenberg au micro. Merci beaucoup d'avoir organisé cette présentation. Le sujet est très intéressant. J'espère que tout le monde le trouvera aussi intéressant que moi. Alors, la présentation générale de ce que nous allons faire, c'est donc tout d'abord de savoir un petit peu ce qu'est l'IANA, ce qu'est la transition. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons assez bien ce sujet, mais nous allons quand même le rappeler rapidement. Ensuite, nous parlerons du pourquoi. Pourquoi est-ce que la transition est importante pour l'ICANN? Et enfin, pourquoi est-ce que la transition est importante pour at large? Et certaines des réponses pourront surprendre certains d'entre nous. L'IANA. Donc, l'IANA, c'est l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur l'Internet. Elle s'occupe de certaines choses qui sont cruciales pour l'Internet, mais qui sont également facile pour ainsi dire. Pour beaucoup, il y en a qui disent que c'est uniquement une fonction administrative. Je pense que c'est un peu exagéré, mais il est vrai que ce n'est pas donc un rôle de prise de décision. C'est simplement s'assurer que l'Internet fonctionne correctement Nous avons donc la zone racine de l'Internet, donc la partie du système de domaine de nom qui indique où sont les opérateurs registres, où est le point CA, où est le point COM, etc. Donc, elle s'occupe des paramètres de l'Internet qui sont utilisés pour que l'Internet fonctionne et il y a également le processus principal de distribution des adresses et des systèmes autonomes entre les différents registres régionaux. Il y a également la gestion de la base de données des fuseaux horaires, il y a également les fonctions administratives, mais donc il n'y a pas de prise de décision. Donc le domaine de premier niveau INT. Au début, Liana, c'était une personne. Vous avez des références dans d'anciens documents qui diront, qui parleront de Liana, mais c'était en fait une seule personne au tout début de l'Internet. Cette personne, c'est donc John Postel. Malheureusement, John est décédé en 1998. Il y a d'autres personnes qui se sont occupées des tâches administratives avec lui, au départ. Et bien sûr, l'Internet a dû continuer de fonctionner après. Alors, la question, c'est de savoir pour qui est la Yama. À la base, l'Internet était un projet de l'agence de projet de recherche avancée des États-Unis. Et donc, cela rassemblait différents centres de recherche. Les fonctions de l'IANA étaient gérées à partir de l'Université de Californie du Sud, qui s'appelait donc l'Information Science Institute. En 1998, la responsabilité au sein du gouvernement des États-Unis a été transférée de DARPA au département du commerce des États-Unis à la NTIA, donc l'Administration nationale des télécommunications et de l'information. Et nous en parlerons assez fréquemment de cette administration aujourd'hui. Alors, lorsque l'ICANN a été formée, donc à la fin des années 90, lorsque les responsabilités ont été transférées de DARPA à la NTIA, l'ICANN, en fait, a pris la responsabilité des fonctions IANA. Il y a eu un certain nombre d'accords entre le gouvernement des États-Unis et l'ICANN au fil des années. Au début, il y a eu un protocole d'entente avec 7 versions différentes. La dernière entente s'appelait l'accord de projet conjoint et donc cela a un petit peu donné le ton. Tout ceci n'était pas géré par le gouvernement des États-Unis, mais c'était en fait un effort conjoint. En 2009, donc, le protocole d'entente, l'accord de projet conjoint a été annulé et nous avons eu une affirmation d'engagement. Ceci a été signé par le gouvernement des États-Unis et l'ICANN, qui pouvait être annulé, résilié par l'un ou par l'autre. Et cette affirmation, donc, détaillait les responsabilités de l'ICANN dans la gestion de la zone racine et dans d'autres domaines. Si on revient en arrière dans l'historique, on voit que à la création de l'ICANN, les gens ont dit « Oui, la transition finale à l'ICANN se fera dans un an à peu près. » Bon, ça a été un petit peu plus long puisqu'il a fallu 15 ans. En 2014, donc il y a 2 ans, la NTIA a annoncé qu'elle était prête à abandonner le contrôle de l'IANA et ce qui était en fait sous-entendu, mais cela n'a pas été dit, c'était que donc ses responsabilités allaient être remises à l'ICANN. Alors la seule chose qui a été dite, c'est que donc la responsabilité ne devait pas être remise à des gouvernements, on ne pouvait pas remplacer le gouvernement des États-Unis par des gouvernements. Il fallait donc également qu'il y ait redevabilité à la communauté internationale. Alors, la première partie de la question est la suivante. Pourquoi est-ce que cette transition est importante? Je vais donc passer la parole à Olivier. J'espère qu'il est là. Alors, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il est sur Adobe? Olivier au micro. Oui, je suis avec vous. Normalement, je suis sur Adobe. Oui, c'est bon, j'y suis bien. Nous sommes tous là. Alan Greenberg, je vous passe la parole, donc allez-y Olivier. Olivier au micro. Je suis donc à Genève et je voulais simplement vous dire que ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est le pourquoi. C'est la première fois qu'on se pose cette question en fait. Pourquoi est-ce que nous faisons tout ceci? Et bien sûr, nous aimons tous avoir des raisons lorsqu'on fait certaines choses. Il y a toujours des raisons derrière les différents projets. Alors, par exemple, la question de l'accord de projet conjoint, pourquoi est-ce qu'on a mis ceci en place? Eh bien, l'idée, c'était donc de savoir, encore une fois, par exemple, l'affirmation d'engagement avait vraiment des choses très intéressantes en ce qui concerne la gestion des domaines de premier niveau, des nouveaux domaines de premier niveau. Donc, il y a des raisons pour lesquelles il était important de passer de ce projet conjoint à l'affirmation d'engagement. Et ensuite, il y a eu l'annonce du gouvernement des États-Unis par rapport à la transition. Pourquoi cette transition? Alors, bien sûr, au début, les gens se sont dit « Oui, c'est à cause des révélations Snowden. » Personne ne fait confiance au gouvernement des États-Unis, donc voilà pourquoi ils sont obligés d'abandonner le contrôle de l'Internet. Et donc, comme Alan l'a dit, tout ceci, en fait, existait depuis longtemps et on aurait pu avancer plus vite. Mais finalement, on s'est trouvé à un point, il fallait vraiment commencer le travail. Donc voilà pourquoi. Il y a un certain nombre de facteurs, en fait. Si on passe à la diapositive suivante. Ah, très bien, merci beaucoup. Je ne savais pas si j'avais le contrôle des diapositives, mais voilà. Donc, vous avez maintenant à l'écran la première chose, donc les États-Unis n'a plus le contrôle. Et nous avons mis le terme de contrôle entre guillemets parce que, en fait, les fonctions IANA étaient supervisées par le gouvernement de la manière suivante. C'était surtout une supervision de l'efficacité des fonctions IANA, si elles étaient bien gérées. Alors, il fallait savoir s'il y avait un problème en termes de service à la clientèle, de niveau de service. À ce moment-là, s'il y avait un problème, le gouvernement des États-Unis pouvait intervenir et allouer ce travail à quelqu'un d'autre. C'était ça l'idée. Et comme l'a dit Alan, les fonctions sont des fonctions assez administratives. Donc s'occuper de la base de données, s'assurer que les choses sont bien faites. Et ce n'est pas uniquement les noms de domaine, c'est également les paramètres de protocole qui, d'ailleurs, sont très rarement changés. Et le troisième point, donc, les registres régionaux, les numéros. Et encore une fois, ceux-ci ne sont pas mis à jour très fréquemment. Donc, on a des fonctions qui ne nécessitent pas des centaines de personnes. En fait, une personne dans le gouvernement, dans le département du commerce des États-Unis, s'occupe de cette supervision, c'est tout. Donc, en principe, tout fonctionne bien. C'est ça qu'elle fait, cette personne. C'est ce que fait le gouvernement des États-Unis. Il s'assure que les fonctions qui ont été transférées à cette organisation du secteur privé continuent de bien fonctionner. Alors, l'autre contrôle théorique du gouvernement des États-Unis, c'était donc le suivant, c'était avant le transfert de ces noms de domaines de premier niveau, eh bien, le gouvernement pouvait dire oui ou non. Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement des États-Unis aurait pu dire, bon, nous n'aimons pas ce pays et nous aimerions transférer ce domaine de premier niveau pour ce pays à une autre entité à laquelle nous faisons confiance. Donc, en fait, au niveau politique, tout ceci aurait pu être utilisé, exploité. Et au cours des 15 années d'existence des systèmes, je ne me souviens pas d'un moment où ceci a pu être utilisé du point de vue politique. Et à aucun moment, un pays n'a été effacé de la carte géographique du globe de cette manière, donc par le biais de l'Internet. Donc, en 98 ou 99, il y a eu la question suivante. Les registres régionaux d'Internet, les organisations qui s'occupaient de l'espace existaient, le groupe de travail de génie Internet pour les paramètres de protocole existait depuis longtemps également. Et donc, il y avait la question de la confiance. Si on signe un contrat pour que les choses se produisent, pour que cette base de données soit gérée par une organisation, eh bien, il faut qu'il y ait un contrat avec une organisation qui soit digne de confiance. Et à l'époque, l'ICANN, on ne lui faisait pas confiance. Donc, c'est pour ça que le gouvernement des États-Unis a été impliqué dans l'affaire. Il y a eu un contrat de l'IETF avec la NTIA. L'NTIA avait un contrat. Il y avait le VeriSign, qui également avait un contrat. Donc, le fait que la NTIA se retire de ceci veut dire que tous ces contrats doivent être mis à jour. Et maintenant, nous savons que l'ICANN est suffisamment digne de confiance dans la manière dont elle s'occupe des choses, des fonctions de l'IANA. L'ICANN est suffisamment digne de confiance pour avoir un contrat. Donc voilà, c'était la première chose, c'était ce contrôle qui était perçu, parce que le gouvernement était au centre de tout ceci. Maintenant que le gouvernement des États-Unis n'est plus impliqué, nous avons des contrats qui s'occupent avec des organisations qui s'occupent donc de ces fonctions. Et nous avons donc maintenant un lien très important en termes de processus de redévabilité de la CAN. Et nous allons parler de cette redévabilité de la CAN. Est-ce que la CAN est suffisamment responsable? Peut-on lui faire confiance par rapport à ces contrats? C'est ça la question. Donc, il nous faut absolument avoir ces deux processus. Le processus de supervision de la CAN et la redevabilité de la CAN. Ceci doit être fait ensemble. Pour ce qui est des implications internationales, est-ce que nous sommes en train de mondialiser les fonctions de l'IANA? Eh bien, non, pas réellement. Les fonctions seront toujours gérées par la même organisation, mais ce que nous faisons, c'est que nous abandonnons le contrôle, le gouvernement des États-Unis abandonne son contrôle, ce contrôle perçu, et nous, donc nous la communauté, avons maintenant un système qui nous permet de nous assurer que ceci n'est pas utilisé de manière politique. Donc, aucun pays spécifique ne va pouvoir utiliser le système. Et donc, l'idée du transfert du contrôle doit se faire vers une communauté équilibrée qui est composée non seulement de personnes du niveau opérationnel, du domaine opérationnel, donc les utilisateurs, mais ce transfert du contrôle est donné à la communauté en général. Donc, en fait, l'ANAC a vraiment une voix très forte au chapitre. Et donc, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que cette transition est importante? Eh bien, Alan Greenberg va vous apporter une réponse là-dessus. Alan Greenberg au micro. Merci beaucoup. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour l'attelage? Pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu en arrière et se dire la chose suivante. Donc, l'IANA, c'est une infrastructure. Donc, l'infrastructure, c'est intéressant. Si l'infrastructure fonctionne bien, alors, je vous donne un exemple. Les égouts. Est-ce qu'on en parle souvent des égouts? Non. Pas réellement. Pour la plupart d'entre nous, nous n'y faisons pas référence. L'infrastructure n'est pas réellement visible. Si les égouts fonctionnent, eh bien, il est rare que vous alliez voir vos amis pour leur dire « les égouts fonctionnent très bien aujourd'hui ». Par contre, s'il y a un problème, si vous avez une inondation chez vous, à ce moment-là, vous commencez à en parler. Donc, si ça fonctionne, le système est invisible. En général, les choses fonctionnent bien, les utilisateurs n'en parlent même pas, et voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pour beaucoup d'entre nous, au sein de l'attelage, de l'ICANN en général, et surtout à l'ALAC, nous avons passé énormément de temps dans des réunions officielles, dans d'autres réunions. Et je crois que cela représente vraiment une grosse partie de l'année. Si j'avais un travail à plein temps, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, eh bien voilà le temps que j'ai passé personnellement dans ce travail de la transition. Donc c'est très important. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Eh bien, si la transition se passe de manière efficace, elle sera invisible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est très important que cela se fasse de manière adéquate. Pour mieux savoir pourquoi est-ce que nous devons être impliqués, il nous faut revenir en arrière et reconsidérer le principe de multipartisme. Le multipartisme, cela veut dire différentes perspectives. Il y a beaucoup de personnes qui sont très passionnées par rapport à ce qu'ils croient, il y a des gens qui ont une mémoire très longue et qui parfois ont des choses à protéger, qui ont des problèmes à défendre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'argent impliqué et il y a également des personnes qui pensaient que l'ICANN ne devrait pas avoir le contrôle de l'Internet et que l'ICANN ne devrait pas remplacer le gouvernement des États-Unis. Donc, trouver un terrain d'entente n'était pas facile.
Au sein d'Atlarge, je dirais que nous sommes l'un des groupes qui n'avait pas de territoire ici à défendre. C'est-à-dire notre seul intérêt était de défendre l'Internet et on essayait de pouvoir élargir notre portée ou notre capacité de contrôler ce qui se passait. Et c'est en fait ce qui va se produire hein, dans une certaine mesure. Mais d'autre part, on avait également un grand intérêt pour que l'ICANN continue d'exister. Donc l'ICANN donne la voix aux utilisateurs. On a peut-être non toujours la voix qu'on voudrait avoir. On a une voix, mais on n'est pas toujours entendu. Mais si vous regardez les organisations comme l'UIT, on n'a pas toujours l'occasion de participer en tant qu'utilisateur. Les seuls groupes qui participent sont les gouvernements et les grandes sociétés. Et bien que les gouvernements soient responsables de défendre l'intérêt public, ils ne considèrent pas toujours le point de vue des utilisateurs individuels et du point de vue de leur interaction avec l'Internet. Donc il était fort important pour nous de nous assurer que cela se fasse d'une manière qui permette aux utilisateurs d'être entendus. Pour qu'ils soient entendus, l'ICANN devait forcément continuer d'exister. Alors, voilà ce qui concerne spécifiquement la transition et at large. Était très actif dans ce processus. Il y a eu de nombreuses propositions qu'on sentait aller interrompre la manière dont Internet fonctionne aujourd'hui si elles étaient mises en œuvre. Personne n'allait détruire l'Internet, mais il y avait différents intérêts, différents points de vue concernant comment il fallait procéder, et des fois, ces points de vue n'étaient pas réalistes. Si la responsabilité de l'IANA était cédée à l'ICANN, cette responsabilité de supervision, il était essentiel que, pour le reste du monde et pour les parties prenantes de l'ICANN, l'ICANN soit responsable, fiable. Cette responsabilité, c'est qu'il fallait qu'on s'assure que les gens sentent au moins que l'Internet n'allait pas être contrôlé ou qu'elle n'allait pas avancer dans le sens qu'elle ne devait pas prendre. Et donc cette question de la confiance et ce besoin de confiance ou cette perception de manque de confiance nous faisait penser aux différentes manières dont la gestion de l'ICANN pourrait avancer. Et donc le conseil d'administration, des fois, n'avait pas la confiance de certains groupes de personnes, des fois d'une manière qui était assez déroutante, parce que si les gens ne font pas confiance au conseil d'administration, on ne sait pas quel est le travail que le conseil d'administration est en train de présider. Donc on avait ce problème de manque de confiance dans certains domaines. Et j'ai une manière de le présenter ici, parce que on voyait ici, par exemple, deux administrateurs que vous reconnaîtrez, George Sadowski et Chris Despain. Les gens les voyaient comme cela avant qu'ils deviennent administrateurs. Et voilà la manière dont les gens les voient une fois qu'ils ont déjà assumé leur poste d'administrateur. Bien sûr, cela n'est pas sérieux, mais on sentait que les gens de la communauté désigner des personnes pour qu'ils occupent un poste au sein du conseil d'administration et que les personnes, ces administrateurs, n'avaient plus la confiance de la communauté dès qu'ils assumaient leur poste. Donc la situation n'était pas très claire parce qu'à un certain niveau, on leur faisait confiance, mais d'autre part, on sentait qu'ils faisaient des choses et qu'ils continueraient d'agir d'une manière qui ne respecterait pas ce que la communauté voulait. Comme je disais, c'était une question de perception de confiance. Cette sensation de confiance était ce qui nous importait, ce qui nous intéressait. L'ICANN et le conseil d'administration étaient considérés comme un instrument d'intérêt public plutôt que d'avoir l'intérêt de l'Internet à l'esprit. Traditionnellement, la LAC n'a pas toujours eu beaucoup de pouvoir au sein de l'ICANN. Ce n'est plus le cas, mais à une époque, si on conseillait le conseil d'administration, on n'était pas toujours sûr que le conseil allait nous écouter. Le monde a beaucoup changé depuis, mais de toute façon, c'était le cas historiquement. On a toujours eu cette sensation que nous devions résoudre la manière dont on procédait parce que autrement l'ICANN serait toujours accusée de ne pas être responsable, même si elle l'était. Or, du point de vue de la LAC, il nous fallait avoir cette sensation de contrôle communautaire. Il fallait qu'on s'assure que la communauté ait le pouvoir de s'assurer que tout le monde, aux différentes étapes du processus, puisse contrôler que le conseil d'administration agisse dans l'intérêt de la communauté, mais en même temps, il fallait qu'on s'assure que tout continue de fonctionner, que les tâches de l'ICANN continuent d'être complétées. Donc on ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de bureaucratie qui ralentisse l'ICANN. Et bien sûr, notre intérêt principal était de nous assurer que les intérêts des parties prenantes qui avaient des intérêts commerciaux ou financiers dans le processus, surtout pour ce qui est des chaînes, pour les chaînes génériques et pour les TLD, soit le plus important. On devait sentir que cela ne devait pas être plus important que les intérêts des utilisateurs. Au monde, le commerce se fait surtout sur Internet de nos jours. Et donc il y avait beaucoup d'implications ou beaucoup d'incidences qui pourraient potentiellement avoir lieu si il y avait des personnes qui avaient des intérêts financiers qui pouvaient contrôler la manière dont l'Internet procède. Donc on sentait qu'il était de plus en plus important que la transition se fasse correctement. Et donc on sentait que les utilisateurs devaient être impliqués et qu'ils puissent avoir un impact et qu'ils puissent avoir le contrôle qui appartenait au gouvernement des États-Unis à l'origine et qui ne faisait pas partie de la responsabilité des parties prenantes. On parlait tout à l'heure du fait que le gouvernement des États-Unis était conçu comme un gouvernement qui défendait l'intérêt de tous. On ne sentait pas qu'il y ait des incidences politiques. Le gouvernement des États-Unis a déjà eu des guerres avec le reste du monde et l'Internet continuait de fonctionner. Donc on sentait que cela était important. Mais d'autre part, le gouvernement avait un contrôle sur les opérations de Liana et supervisait ces opérations de Liana. Et on sentait qu'il fallait qu'il y ait un organe qui soit aussi responsable que le gouvernement des États-Unis pour le remplacer. Donc on s'est beaucoup demandé au sujet de ce processus, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Olivier et moi pourrions partager beaucoup de détails avec vous sur ce que nous avions discuté. Et bien sûr, si vous avez des questions là-dessus, je vais vous donner la parole. C'est Olivier qui va modérer le débat et donc je vais lui céder la parole. Olivier Crépin-Leblanc au micro. Merci Alan. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Bien sûr, les solutions de l'ALAC concernant la transition Liana ont été élaborées par la communauté. Cela fait déjà 2 ans que nous avons commencé à travailler et nous avons reçu beaucoup de questions sur pourquoi on n'a pas de problème de juridiction, pourquoi l'ICANN pourrait être cédée ou transférée ses responsabilités en dehors des États-Unis, même si l'ICANN est basée en Californie, on pourrait peut-être passer à une autre juridiction, comme à Genève, par exemple. Et en fait, la transition de Liana ne portait pas sur la question de la juridiction. Cela portait sur la responsabilité de l'ICANN pour la gestion des fonctions Liana et pour respecter les exigences que le groupe de la transition de Liana avait demandé que l'on respecte. En ce moment, on travaille beaucoup sur la responsabilité de l'ICANN au sein du groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité de l'ICANN pour le renforcement de l'ICANN. Il y a eu beaucoup de discussions au sein de ce groupe et ce travail prendra des mois, voire des années. Donc c'est ça que je voulais vous demander avant de passer à la partie des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, vous dire en même temps que nous ne sommes pas à la fin du processus. On ne vient que de commencer. La proposition de transition de la supervision des fonctions Liana n'a toujours pas été présentée au Congrès des États-Unis et vient d'être envoyée à la NDIA qui doit remettre cette proposition au Congrès des États-Unis qui va par la suite considérer notre proposition. Donc on est au début du processus. Alan prend la parole. Merci Olivier. J'ai un autre commentaire à faire concernant la juridiction. Il y a 2 juridictions différentes dont les personnes parlent et malheureusement on utilise le même terme pour les 2. D'une part, on a la juridiction qui est établie dans les contrats et la plupart des contrats en ce moment sont dans la juridiction du gouvernement de la Californie, de l'État de la Californie. Et si on devait changer de juridiction, on aurait beaucoup de travail à faire. Ce ne serait pas toujours simple. Il y a des sociétés qui décident d'être plus flexibles ou plus souples que d'autres, et cela peut être changé. D'autre part, on a le domaine des tribunaux, et c'est la juridiction juridique de quels sont les tribunaux qui vont décider sur les conflits. Il y a des personnes qui se disent que l'ICANN devrait être une corporation internationale. Ce n'est pas toujours dans la portée des corporations, des multinationales. Mais si on pense, par exemple, aux autres organisations concernant les télécommunications, on pourrait penser à l'UIT, qui n'agit pas comme l'ICANN. Mais, en même temps, on ne sait pas comment on pourrait agir sans devoir suivre les intérêts des grandes sociétés. Donc on devrait voir ce que cela donnerait si les tribunaux décidaient de s'impliquer. Donc on a différents aspects à considérer si l'on considérait de continuer d'avancer dans un sens ou dans l'autre. Et on ne sait pas ce que cela donnerait. Il faut y penser, hein. Il faut y réfléchir. Merci. Olivier prend la parole. Merci Alan. Je ne vois pas de main levée en ce moment pour la liste d'intervenants. Si vous avez des questions à poser, il est également possible de le faire à travers le chat. Mais je ne vois pas de questions sur le chat non plus. Alan, en fait, j'ai moi-même une question pour vous. Vous avez dit à plusieurs reprises que le transfert des fonctions un organisme dans le cadre des Nations Unies ne serait pas une solution souhaitable pour nous. Mais pourquoi pas? Ne serait-ce pas peut-être mieux de l'avoir dans ce cadre des Nations Unies que d'avoir la supervision aux États-Unis? Alan. Oui, c'est une question sensible en fait. Ne serait-ce pas mieux d'opérer selon d'autres lois que celles des États-Unis? Eh bien, dans un certain sens, oui. On dirait que cela pourrait être opéré comme l'ICANN l'est en ce moment, contrôlé par la communauté multipartite, sans qu'un tribunal américain ou britannique ou suisse ou brésilien puisse décider ce qui est correct ou pas pour l'ICANN. Donc à un certain niveau, je dirais oui, cela pourrait être mieux. Il faudrait pourtant considérer les détails, mais on sent en même temps que ce serait peut-être bien, sauf que nous avons peu de mécanismes en ce moment pour faire cela, pour empêcher qu'un gouvernement contrôle complètement le processus, et on ne voudrait pas dépendre de ces peu mécanismes, même si les États-Unis ont opéré d'une manière assez libre, ils nous ont donné une marge de manœuvre assez grande. Il n'est pas sûr que tous les gouvernements feraient la même chose. Donc on sent qu'il y a certains risques dans ce mode de procéder. Merci. Tijani prend la parole. Merci Olivier et merci Alan de cette présentation. Je vois qu'il y a Sébastien qui lève la main. Et après Sébastien, je ferai mon commentaire. Allez-y Sébastien. Sébastien au micro. Merci Tijani. Il y a des commentaires et des questions sur le chat qui seraient peut-être mieux d'aborder avant ma question. J'ai une question à poser, mais je pense d'une part qu'il serait utile si vous pourriez nous permettre de défiler nous-mêmes sur la présentation pour pouvoir revenir en arrière. Voilà. Je tiens à demander pourquoi il serait mieux d'avoir une autre solution. Pourquoi tout fonctionnera mieux après la transition. Moi, je n'en suis pas aussi convaincue que vous. Je sais qu'on a un rôle qui va être cédé. Et cela, bien sûr, implique différentes possibilités pour nous en tant qu'utilisateurs finaux. Mais il est possible qu'on nous exclue de certaines décisions, qu'on ne nous implique pas à certains processus. Cela fait partie de ce qui est important pour nous dans cette organisation. Si vous regardez la proposition du CCWG et du CWG pour la transition de la supervision de François Yana, vous verrez tous les organismes qui seront créés et toutes les personnes qui doivent appartenir à ces comités de gestion. Cela peut être changé depuis que je l'ai lu la dernière fois, mais on avait différents organismes et différents secteurs de la communauté qui allaient participer. Mais je ne comprends pas complètement qui va pouvoir participer, qui c'est qui va pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas toujours simple. Il n'est pas toujours facile de comprendre cela. Il reste beaucoup de travail à faire. Et cela sera l'un des principaux problèmes, de voir ce que la mise en œuvre donnera. On pourrait avoir une solution qui ne soit pas correcte et on pourrait avoir une solution pour laquelle on ne saura pas comment cela va fonctionner. Donc pour moi, c'est ça qui est difficile par rapport à cette transition. En même temps, je suis sûre qu'il faut que l'on continue d'avancer parce que lorsque vous regardez les lettres du sénateur Cruz au président du conseil de l'ICANN, l'on voit déjà qu'il faut qu'on s'éloigne de cela, qu'il faut que l'on prenne un peu de recul. Le problème que nous avons avec la situation actuelle de l'ICANN est le fait qu'il faut que l'on respecte la loi californienne, que l'on respecte la volonté du gouvernement américain. Donc je voudrais le comparer avec mon pays, par exemple. Où nous devrons traiter avec la Commission européenne et avec la Belgique ou l'Italie ou avec d'autres pays qui ont d'autres intérêts. Donc il faut toujours tenir compte de ces complexités. On négocie entre les pays de l'Union, mais quant aux États-Unis, je ne suis pas toujours sûre si ils vont accepter la proposition de transition. Donc c'est ça le problème pour nous. Pourquoi c'est à eux de décider si on peut avancer ou pas? Quant à l'ICANN, je dirais qu'il faut qu'on s'assure que l'on soit dans une organisation transparente, multipartite, ascendante. Ce n'est pas parce que l'ICANN soit la meilleure organisation au monde, mais l'ICANN est une bonne organisation aujourd'hui qui fonctionne correctement et il faut que l'on assure la continuité de la participation de la communauté. C'est à cela qu'il faut penser, c'est à cette ICANN qu'il faut penser lorsqu'on parle de transition. J'ai d'autres commentaires à faire, mais je donnerai maintenant la possibilité aux autres de prendre la parole. Merci. Si j'en y prends la parole, merci Sébastien de ce commentaire très intéressant. Je comprends ce que vous dites. D'ailleurs, je suis d'accord avec certains de vos commentaires. Je vois que Alan lève la main. Je ne sais pas s'il veut répondre. Alan Grimberg au micro. Oui. Je partage moi-même, certaines des préoccupations de Sébastien. Et si j'étais moi-même le roi et j'avais la responsabilité de prendre toutes les décisions que l'on a prises ces dernières années, ou si l'ICANN avait reçu la première responsabilité, on aurait pu avoir une solution plus simple ou plus utile. Mais le concept de multipartisme implique des compromis. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, en tout cas, est acceptable. Et je pense que ces nouvelles règles exigeraient davantage de travail d'autres personnes. Donc on n'est pas toujours sûr de ce que nous devons faire, mais cela n'est pas toujours mauvais. On a le potentiel, bien sûr, d'agir d'une manière qui soit tout à fait incorrecte, et je pense que ce n'était pas le cas pour ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc en tout cas, je crois que la proposition est acceptable. Merci. Tijani prend la parole. Merci Alan. Olivier lève la main. Est-ce que c'est pour répondre aux commentaires de Sébastien? Olivier prend la parole. Oui, merci Tijani. J'allais faire une remarque concernant l'intervention de Sébastien. Et puis j'allais reprendre les commentaires et les questions de Tom Lowenhope sur le chat. Allez-y, dit Tijani. Olivier au micro. Merci Tijani. Donc oui. Sébastien était l'une des personnes qui nous a représentés au sein du CCWG Responsabilité. Et bien sûr, on a identifié différentes préoccupations au sein de ce groupe. Je sentais moi-même qu'on allait céder le contrôle de ICANN pour passer d'une situation où le conseil d'administration allait entendre et écouter toute la communauté, suivant le système de frein et contrepoids de la communauté, avant de prendre ses décisions, pour assurer que les décisions prises respectent l'intérêt de la communauté, pour ne pas qu'il y ait des intérêts d'une partie de la communauté qui prévalent par-dessus les intérêts d'une autre partie. Le groupe de travail intercommunautaire de l'ICANN m'a fait voir que j'ai moi-même, bien sûr, des préoccupations concernant l'utilisation des pouvoirs communautaires par la communauté pour menacer le conseil d'administration de l'ICANN ou pour prendre des mesures si le conseil d'administration n'agissait pas dans l'intérêt de la communauté. Mais le fait que la LAC fasse partie des composantes des pouvoirs communautaires pour pouvoir contrôler les mesures prises ailleurs dans l'ICANN et le fait que l'on fasse partie de la communauté multipartite pour pouvoir contrôler les mesures prises par le conseil d'administration de l'ICANN nous permet d'être mieux placés que ce qu'on prévoyait au début. Je sens qu'on a une situation difficile aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'il est difficile pour commencer à contrôler l'ICANN et pour commencer à mener à une nouvelle infrastructure de l'ICANN. Donc que ce soit clair, si l'on commence à agir en tant que nouvelle communauté et que l'on applique certains des pouvoirs communautaires, dont le plus extrême est la dissolution du conseil d'administration, c'est-à-dire la destitution de l'ensemble du conseil d'administration, cela impliquerait un problème pour l'organisation, que l'on ait ce pouvoir ou pas. Je pense que les différents clients de des fonctions IANA chercheraient quelqu'un d'autre pour exploiter ces fonctions si importantes pour eux. Donc, c'est un cas extrême, mais c'est une possibilité. Donc, on pense en même temps si la LAC sera renforcée ou affaiblie. Si la LAC a le même pouvoir que les autres composantes de la communauté multipartite de l'ICANN et que l'on partage ensemble les pouvoirs communautaires, je sens que la LAC sera renforcée dans le sens qu'elle ne sera surtout pas affaiblie dans ce processus. Je pense que notre but était non pas de renforcer notre rôle, mais d'avoir un rôle dans un système équilibré où l'équilibre n'allait pas être biaisé envers une partie de la communauté et ignorer le reste des parties prenantes. Donc il est important de considérer cet équilibre. On se demande si le rôle de la LAC sera affaibli dans un sens, lequel que ce soit, et on pense au fait que nous avons eu un rapport avec le reste de la communauté en tant que comité consultatif. À une époque, il y avait des comités consultatifs qui avaient des pouvoirs spéciaux au sein du conseil d'administration, par exemple le GAC, qui devait négocier avec le GAC avant de prendre des mesures. Et on savait que les négociations entre les deux allaient mener à des décisions finales qui ne pouvaient pas être rejetées. Et donc on a avancé dans ce sens-là. De toute façon, je dirais qu'on... on est un peu trop spécifique ici et qu'il faut que l'on considère la manière dont la communauté considère les mesures du conseil d'administration. Si le conseil d'administration prend des mesures négociées avec le GAC que le reste de la communauté n'apprécie pas, elle a le pouvoir de rejeter cela. Donc, si on pense, est-ce qu'on a plus ou moins de pouvoir, je pense que tout le monde a maintenant le même pouvoir pour garantir que le système multipartite continuera de fonctionner. Il faudra que l'on travaille ensemble pour nous assurer que l'on trouvera un moyen qui nous permettra d'avoir une ICANN qui soit responsable, sans pour autant avoir une autre organisation qui régule ou qui contrôle l'ICANN. On se demande des fois qui est le patron ici et on voit que dans la solution que l'on présente, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un patron, quelqu'un qui nous contrôle en tant que supérieur. Si Jeannie prend la parole, merci Olivier. On comprend bien ce que vous dites. On se demande, à travers ce que vous dites, pourquoi la transition est si importante. Eh bien, l'idée est de ne pas agir dans l'intérêt financier de certaines sociétés, mais plutôt d'agir dans l'intérêt public. Et c'est ça qui est le plus important. Et si la transition de l'ICANN ne défend pas l'intérêt public, il pourrait y avoir d'autres intérêts. Donc c'est ça qui nous intéresse par rapport à la transition. Je vais maintenant donner la parole à Alberto qui lève la main, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se concentre sur les questions ou les aspects opérationnels de la Yana de la pré-transition. On a différentes fonctions de l'Internet qui sont importantes pour nous. Donc il faudrait que l'on évalue ces différents paramètres de ce qui nous intéresse, les fonctions de Yana. Il faut avoir un point de vue général pour voir l'ensemble de la transition. La transition, je pense, sera positive pour la communauté et elle donnera une partie du pouvoir du conseil d'administration à la communauté. Et le problème est comment la communauté agira, comment atteindre cet équilibre entre le pouvoir de la communauté et du conseil d'administration. C'est ça qui est important, de vérifier qu'il n'y ait pas une partie qui soit plus puissante qu'une autre. Il est difficile d'atteindre cet équilibre, mais c'est ça qui est important dans cette transition, de défendre l'intérêt public. Cela va dépendre de notre communauté, de nos utilisateurs finaux. Il faut que l'on défende notre pouvoir, c'est le pouvoir et c'est l'union qui nous donne ce pouvoir pour défendre l'intérêt public des utilisateurs. On a beaucoup d'informations et beaucoup d'intérêt. Mais il faut que l'on agisse pour trouver cet équilibre entre l'intérêt public et l'ICANN. Autrement, c'est ça qui va nous poser difficulté.
Alberto Soto au micro. Merci beaucoup, Tijani. J'ai donc quelque chose à dire par rapport aux commentaires de Sébastien et de Alan. Nous avons en fait commencé notre transition d'une manière inadéquate parce qu'en fait, il n'y avait pas de représentation à l'ICG et je me souviens que Sébastien s'était plaint par rapport à ça lors d'une de nos réunions. Et je me souviens qu'on avait vu ce même commentaire sur une liste de diffusion et donc j'avais fait cette plainte auprès de Fadi et donc j'avais dit oui, c'est bien, nous sommes nos utilisateurs de l'Internet, mais il faut représenter les intérêts du gouvernement, c'est une chose, mais nous représentons les intérêts des utilisateurs finaux. Donc, chacun d'entre nous, nous représentons différents groupes. Et donc, sur la base de ces plaintes, nous avons pu avancer. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour continuer d'avancer et pour atteindre nos objectifs. Merci. Tijani au micro. Merci beaucoup, Alberto. Olivier, vous aviez levé la main? Alors, il y a également une autre demande. Olivier, c'est à vous. Je crois que c'est une main qui était ancienne. Donc, Tijani au micro, toujours. Shani, vous pouvez y aller. Sean au micro, pardon. Merci beaucoup Tijani de m'avoir donné la parole et merci d'avoir organisé le webinaire. Je crois que ce qui a été dit sur la transition suscite, cher moi, certaines réflexions. Il sera important pour l'at-large à l'avenir d'être très impliqué dans la nouvelle approche dans la communauté. Une fois que la NTIA signera, en dehors du fait que la NTIA doit encore signer la proposition, il y a certains résultats du CCWG qui ont été présentés. Donc il y a déjà ce travail à faire. En ce qui concerne la participation de l'at-large, j'aimerais saisir cette opportunité pour encourager la communauté, parce que nous avons justement une opportunité de participer. Il y a le secteur privé, il y a d'autres parties prenantes. Et il faut que la participation soit adéquate au sein de la communauté at large. Donc c'était ce que je souhaitais apporter comme contribution. Il serait donc intéressant à l'avenir au sein de l'At-Large? D'inclure les contributions de différents participants. L'interprète s'excuse, l'audio de Sean n'était pas très bonne. Je n'ai pas tout pu traduire. Tijani au micro. Merci beaucoup, Sean. Y a-t-il d'autres commentaires? Non, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais simplement mentionner que nous avons parlé de la juridiction. La juridiction, nous en reparlerons dans le cadre de la redevabilité ou responsabilité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de suggestions qui ont été faites, mais rien n'a été encore discuté de manière officielle. Ceci étant, ce n'est pas le seul problème, la seule question dont on parlera. Il y en a d'autres, mais j'espère que nous aurons davantage de temps pour en parler. Pour l'instant, il n'y a pas de date butoir, donc c'est quelque chose qui pourra être fait après la transition. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur la présentation. Donc Olivier, allez-y. Olivier au micro. Merci Tijani. Olivier Crépin-Leblond au micro. Donc, je voulais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit Sean. Il a mentionné certaines choses très intéressantes, mais ce qu'il a également dit, c'est donc l'impact sur les utilisateurs finaux. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est une chose. C'est la phase de mise en application. Nous avons trouvé un moyen d'avoir un contrat qui remplace le contrat actuel et d'avoir des SLA qui, s'ils ne sont pas modifiés, peuvent être peut-être améliorés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes des fonctions, il y en a. Celles-ci seront gérées de manière tout aussi fiable que la manière utilisée jusqu'à maintenant. Et donc ça, c'est une bonne chose. Nous devons avoir des fonctions stables, gérées de manière stable. Du point de vue politique, au début, il y avait certaines préoccupations par rapport aux fonctions YANA et leur utilisation éventuelle de manière commerciale pour discriminer d'une manière ou d'une autre ou pour peut-être introduire des coûts tellement élevés que les utilisateurs finaux en seraient affectés négativement. Je crois que ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qui se passerait, ce qui se passera. En ce qui concerne les communautés, il y a certaines préoccupations, mais soit nous n'avons pas de comité, soit nous avons de tout petits comités, soit nous avons un seul comité au sein duquel tout le monde se battra pour avoir voix au chapitre. Et donc, je crois que l'autre option, c'est d'avoir beaucoup de communautés avec un équilibre des pouvoirs, mais donc il y a toujours des difficultés pour gérer tout ceci. Donc, la question, c'est le nombre de communautés et l'équilibre des pouvoirs. Donc, avoir des communautés qui commencent à avoir beaucoup de pouvoir et une concentration de pouvoir à un certain endroit, ça, c'est une des questions. Donc, s'il y a une concentration quelque part, cela veut dire qu'il y a corruption, cela veut dire que le système est mal équilibré, cela veut dire qu'il y a un problème et éventuellement un risque de mainmise. Tijani au micro. Merci Olivier. Alain, vous aviez la main levée. Alain au micro. Oui, un bref commentaire par rapport à ça. Nous avons beaucoup travaillé pour que le point de vue de l'at-large soit représenté dans ces communautés, dans ces comités, pardon. Il sera très difficile d'avoir suffisamment de personnes pour avoir une représentation dans chacun des comités. Et je sais que c'est un problème. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Il faut non seulement avoir des noms à soumettre, mais avoir des gens qui sont actifs. Donc ce sera intéressant à l'avenir de voir ce qui se passe. Tijani au micro. Merci beaucoup, Alan. D'autres questions ? Sean ? Oui ? Allez-y, Sean au micro. Merci, Tijani. Désolé, nous ne pouvons pas interpréter. Tijani au micro, merci Sean. Il nous reste encore quelques minutes. Y a-t-il d'autres questions ? Sinon, je vais repasser la parole à Yessim ou au membre du personnel qui va s'occuper de la suite. Yessim au micro, merci beaucoup Tijani. Nous allons donc passer à la partie questions-réponses. Alors, première question. La voici. Donc, Liana gère le domaine .edu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Olivier va nous donner la réponse. Alain au micro. Alors, la réponse, c'est faux. Non, c'est géré, le DU est chargé. Pardon, Liana s'occupe du point INT, mais pas du point EDU. Alors, Olivier au micro. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je crois qu'en partie la confusion vient du fait que, oui, Liana s'occupe de la racine. Gère la racine, les mises à jour à la racine, pardon. La racine en elle-même est gérée par un sous-traitant. Les mises à jour à la base de données sont faites par Liana. Mais gérer donc un domaine de premier niveau est complètement différent. Lorsqu'on gère un domaine de premier niveau, on gère le registre du domaine. Alors que, est-ce que Liana gère EDU? Non. Il y a une autre organisation qui s'occupe de cela. Yes, c'est mon micro. Merci Olivier. Nous passons à la question suivante. Donc, la deuxième question, c'est John Postel. A travaillé pour quoi? Donc, une université, le gouvernement des États-Unis. Aucune de ces réponses, ou alors toutes ces réponses. Alors, pouvons-nous avoir la réponse pour cette question ? Alain au micro. Ça, c'était une question piège. Parce que, du point de vue technique, oui, il travaillait pour une université, il est financé par le gouvernement des États-Unis, par contre. Donc, d'un certain point de vue, il travaillait pour le gouvernement des États-Unis, effectivement. Donc toutes les réponses sont bonnes. Personne n'a perdu. Bienvenue au micro. Merci beaucoup, Alan. Nous allons passer à la troisième question. L'ICANN peut facilement être remplacé par l'UIT. Est-ce que c'est vrai, faux, aucune de ces réponses, toutes ces réponses? Donc, la réponse, allez-y, Alan au micro. Du point de vue technique, effectivement, l'ICANN peut être remplacé par l'UIT. Je ne pense pas que ce soit efficace, par contre. Mais d'une manière générale, en fait, la réponse est fausse. La réponse est faux, pardon. Je pense que ce ne serait pas possible. Olivier au micro. Alan a raison. Je crois que du point de vue de beaucoup de personnes, la manière, le travail que fait l'ICANN, c'est quelque chose qui est très spécifique, surtout en ce qui a trait au multipartisme. En ce qui concerne les fonctions de l'IANA, c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que sur les différentes fonctions, il y en a deux qui sont données à l'IANA, par les communautés opérationnelles, pour que l'IANA s'en occupe. Donc c'est à eux de décider si oui ou non ils veulent les donner à l'IANA ou à quelqu'un d'autre. Et étant donné l'historique de l'UIT, je ne pense pas que ces fonctions fonctionneraient bien avec l'UIT.
Y a-t-il des commentaires concernant cette question, dit Tiffany? Je pense que c'est une question qui est un peu ambiguë, parce que l'UIT pourrait remplacer l'ICANN, cela serait possible. Donc la question en fait est potentiellement vraie. La vraie question est si cela pourrait fonctionner, si l'UIT pourrait faire fonctionner cela. Merci. Yassim? Question numéro 4. Les utilisateurs seront personnellement touchés lorsque la transition aura lieu. Oui ou non? Votez, s'il vous plaît. Alan, on espère que la réponse soit non. Que cela soit correct. Bien, nous passons maintenant à la question numéro 5, dit Yeshem. Le conseil d'administration de l'ICANN contrôle la zone racine. Votez, s'il vous plaît. Et la réponse est non. Alan dit non. Olivier prend la parole. Oui, non. La réponse correcte était non. Le conseil d'administration ne décide pas ce qui entre dans la racine et ce qui n'entre pas dans la zone racine. Il n'y a aucun remplacement pour le processus de décider qui entre dans la racine et ce qui n'entre pas dans la racine. Donc on n'a pas ici de remplaçant pour le gouvernement des États-Unis. Merci, Yeshem. Maintenant, passons à la question numéro 6. Le processus de transition de la supervision de l'IANA a commencé à cause des révélations de Snowden. Est-ce oui ou non? Votez. Et la réponse est... Olivier au micro, oui. La réponse... et que cela pourrait être vrai, mais ça pourrait ne pas l'être. Et donc nous comprenons qu'il y a différents facteurs pour la transition. Il est vrai que la transition était une possibilité. On ne savait pas si cela allait se faire dans les 6 mois, 2 ans ou 10 ans, mais Larry Strickling, qui est la personne qui a rédigé la lettre originelle de la NTIA à l'ICANN, qui a lancé le processus de transition, a dit qu'ils pensaient à faire cela depuis des années et qu'ils ont senti que c'était le moment de le faire. Si Jeannie prend la parole, oui, mais moi je suis de l'avis que cette déclaration de la NTIA sur la transition est venue à cause des révélations de Snowden. Cela a eu un impact sur l'ICANN au niveau de la gestion de contenu, parce que l'ICANN ne gère pas les contenus. Donc il y a eu beaucoup de gouvernements qui étaient affectés ou qui étaient touchés par les révélations de Snowden. Je ne saurais pas dire si c'était exactement à cause des révélations de Snowden, mais la déclaration, je pense, en tout cas, a suivi ces révélations. Olivier au micro. Oui, merci Tijani. Je pense qu'il faudra demander cela spécifiquement à Larry. On le saura peut-être d'ici 50 années, dit Alan. Sébastien au micro, oui. Si vous me permettez, j'ai fait partie du processus et je pourrais vous dire que nous nous réunissons avec les bonnes personnes. Donc, c'était pour la bonne raison. Merci, Tijani. On passe à la question suivante. La transition de la supervision IANA est seulement une transition des noms de domaine. Est-ce vrai ou faux? La réponse est définitivement faux, dit Alan. C'est pour les noms, les numéros et les protocoles. Okay. On parle beaucoup des noms, surtout la plupart du temps, mais il ne faut pas oublier le reste des communautés. Merci, dit Yashim. On passe à la question suivante. Est-ce que Tijani, vous voulez prendre les questions de suivi. Oui, bien sûr. Merci, Yashim. Nous remercions tout le monde d'avoir participé. Nous avons maintenant quelques questions concernant la téléconférence elle-même que nous voudrions vous demander de répondre. Donc, première question, est-ce que l'horaire du webinaire était convenable pour vous ou alors était-ce trop tôt, correct ou trop tard? Merci. On passe à la deuxième question. Dans quelle région habitez-vous en ce moment? L'Afrique, l'Asie, l'Australie et les îles du Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes ou l'Amérique du Nord? Merci de voter. On passe à la question suivante. Combien d'années d'expérience avez-vous dans la communauté de l'ICANN? Merci. On passe à la question numéro 4. Que pensez-vous de la technologie utilisée pour le séminaire web, audio, vidéo, communication téléphonique? Notez s'il vous plaît la technologie de 1 à 5 où 1 est très mauvaise et 5 est très bonne. Merci. On passe passe à la question numéro 5. Les présentateurs maîtrisaient-ils le sujet? Encore une fois, il faut les noter entre 1 et 5, où 1 est une maîtrise très insuffisante du sujet et 5 est une très bonne maîtrise du sujet. Merci. Question numéro 6. Êtes-vous satisfait du séminaire web? Et dernière question, la question numéro 7. Quels sont les sujets que vous voudriez que l'on présente dans les prochains séminaires web? Veuillez s'il vous plaît écrire vos réponses dans le cadre de droite où vous avez l'espace. Déjà Niol au micro, oui. Si vous n'avez pas la possibilité ou le temps de l'écrire maintenant, s'il vous plaît, envoyez-les-nous par mail. Nous allons l'évaluer pour les prochaines réunions. Merci. Très bien. Donc, nous sommes juste à l'heure. Si vous n'avez pas d'autres remarques, pas d'autres questions, nous allons pouvoir conclure. Je souhaite remercier chaleureusement nos deux intervenants, Alan Greenberg et Olivier Crépin-Leblon. Je remercie également le personnel, les interprètes. Merci beaucoup à tous et nous nous retrouverons pour le prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous, le webinaire est terminé. L'audio va être déconnecté. Merci beaucoup pour